Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Belinda Bosuma.
La Cour constitutionnelle prend à délibérer les requêtes de Théodore Ngoï et de David Mpala, un particulier congolais, et promet de rendre son arrêt incessamment. Entre-temps, il est demandé à Théodore Ngoï de fournir des preuves de ses accusations sur les irrégularités des élections du 20 décembre. Quant à David Mpala, le ministère public demande à la Cour de rejeter sa requête pour défaut de qualité. Des mineurs qui deviennent chefs de ménage, cela se passe dans certains sites de déplacés au Nord Kivu. Parmi eux, des orphelins qui ont fui la guerre avec leurs cadets, des enfants dont les parents sont morts dans les camps des déplacés et d'autres qui ont perdu le contact avec leurs parents en fuyant, une responsabilité difficile à assumer. Reportage à suivre dans ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. Contentieux électoral des résultats de l'élection présidentielle, la Cour constitutionnelle a pris en délibéré hier lundi les requêtes de Théodore Ngoï, un des candidats malheureux à la présidentielle du 20 décembre dernier, et de David Mpala, un particulier congolais. Elle a promis de rendre son arrêt avant le 12 janvier. Si Théodore Ngoï plaide pour l'annulation des élections du 20 décembre pour plusieurs irrégularités et la récomposition d'une nouvelle CENI devant organiser des nouveaux scrutins, David Mpala, outre la même demande, il va plus loin pour solliciter auprès de la Cour l'organisation d'une transition de 2 ans. Avis défavorable donné par le ministère public qui a demandé à la Cour de recevoir la requête de Ngoï, mais de la déclarer non fondée faute de preuves. Quant à Mpala, de rejeter sa requête pour défaut de qualité. Explication avec vous, Jeff Ngoï Mulunda.
Le juge du contentieux électoral est un juge de la sincérité et non de la conformité, à en croire aux plaidoiries de la défense du candidat président de la République, Félix Tshisekedi, et celle de la défense et le ministère public. Les deux défenses demandent à Théodore Ngoï de produire les preuves matérielles de ses accusations sur les irrégularités des scrutins du 20 décembre. Le requérant n'en a pas. Il retourne la même préoccupation à la CENI et aux avocats de Tshisekedi. Il demande également au juge de lui produire les preuves des irrégularités qu'il évoque. C'est à l'accusateur de nous prouver les contraire de ce qui a été fait par la CENI, demande la Cour au requérant, mais sans succès. Quant à David Mpala, il faut être candidat pour saisir la Cour en cette matière, argue la défense de Tshisekedi et de la CENI. Mais qui est réellement ce David Mpala? Il était encore devant la même Cour en 2018 et renvoyé pour défaut de qualité.
Je suis citoyen congolais. La CENI m'a privé de mon droit de vote.
Une des attentes des avocats du numéro 20 au scrutin présidentiel du 20 décembre, expliquée ici par Maître Jean-Claude Tshilombayi.
Les réponses de la Cour ne peuvent être que conformes au droit, soit en disant qu'il ne s'agissait pas de venir contester la régularité du processus, mais plutôt de venir vérifier la sincérité des résultats publiés.
L'irrégularité ne suffit pas en droit électoral pour annuler une élection. Il faut en plus qu'elle influence l'ordre d'arrivée des candidats.
Par ailleurs, 16 candidats à la députation, invalidés par décision de la CENI, saisissent le Conseil d'État contre cette décision. Ils ont introduit hier leur requête, sollicitant d'ordonner l'anéantissement total des effets de la décision ainsi entreprise, avec injonction à la CENI à ce stade de ne s'en tenir qu'à la mise en application des prescrits de certaines dispositions de la loi électorale en la matière. Le même jour, hier, le procureur général près la Cour de cassation a interdit à tous les 82 invalidés de sortir du pays. Selon le parquet général, une action publique est déjà enclenchée par son office contre les faits de corruption, de fraude, de détention illégale des matériels électoraux et autres. Entre-temps, la Commission électorale nationale indépendante publie les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 20 décembre dernier, bureau de vote par bureau de vote, sur son site internet. Dans un communiqué de presse rendu public hier, la CENI indique qu'en cliquant sur le lien https://www.ceni.cd, les résultats sont présentés au niveau national, y compris les 5 autres pays, par province, par circonscription électorale, par site de vote et par bureau de vote. Mais quelle est la procédure à suivre, grâce à Mzati?
Les résultats s'affichent d'abord par candidat globalement sur l'ensemble du territoire ou par pays. Pour connaître les résultats des 26 candidats à l'élection présidentielle par pays ou par province, il faut cliquer sur l'un des 5 pays à gauche ou cliquer sur la province sur la carte de la République démocratique du Congo. À l'intérieur de chaque province, les résultats sont présentés par circonscription électorale à sélectionner et à l'intérieur de chaque circonscription par site de vote à sélectionner également. Ensuite, par site de vote, les résultats obtenus par chaque candidat s'affichent par bureau de vote à choisir en se basant sur des lettres A, B, C, D qui correspondent à chaque bureau de vote.
Pendant ce temps, Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi, dénonce l'encerclement de sa résidence hier lundi par des policiers et militaires pendant plusieurs heures. Ce parti politique crie à l'intimidation. Le gouverneur du Haut-Katanga qui condamne cet incident indique cependant que ces hommes en uniforme ont été dépêchés à Kachobwe pour rétablir l'ordre, ce après la destruction il y a quelques jours des maisons des particuliers par certains jeunes qui ne partagent pas les mêmes convictions politiques avec eux. Jean Gandou Kabongo, reportage.
L'opinion a été alertée par les images publiées dans les réseaux sociaux où on a vu les hommes en uniforme et bien armés ainsi que des véhicules barricader les voies d'accès à la concession de Moïse Katumbi à Kachobwe dans le territoire de Kasenga. Cette présence d'hommes armés est décriée par Ensemble pour la République à travers Olivier Kamitatou, son porte-parole.
Moïse Katumbi est un citoyen libre dans son pays dans lequel il a le droit de s'exprimer et de circuler tout à fait librement. L'encerclement de sa résidence ne relève d'aucun fondement. Aucune base juridique. Le pouvoir cherche tout simplement à intimider un leader politique dont le seul crime est de demander l'annulation des élections les plus frauduleuses jamais organisées dans notre pays.
Pour sa part, le gouverneur du Haut-Katanga a indiqué sur son compte X qu'aucune instruction n'a été donnée dans le sens de restreindre la liberté de circuler de qui que ce soit à Kachobwe et d'ajouter que, dès qu'il a appris ce faux pas commis par quelques éléments des forces de l'ordre, dépêchés du reste dans cette partie de la province du Haut-Katanga, en vue de dissuader les velléités de certains compatriotes à vandaliser les biens de leurs adversaires politiques, Jacques Yaboula souligne qu'il a immédiatement ordonné la levée de cette barrière. C'est ainsi que les responsabilités des uns et des autres seront établies pour que pareil cas ne se répète, a-t-il conclu. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Autre nouvelle, je vous l'ai dit dans les titres, au Nord Kivu, des dizaines d'enfants mineurs assument les responsabilités de chefs de ménage dans les sites des déplacés. Parmi eux, des enfants orphelins qui ont fui la guerre avec leurs cadets, des enfants dont les parents sont morts dans les camps des déplacés et d'autres qui ont perdu le contact avec leurs parents en fuyant dans le camp des déplacés de Don Bosco au nord de Goma, par exemple. Environ 175 ménages ne comptent que des enfants mineurs. Dans ces familles, les aînés sont directement considérés comme chefs de ménage et encadrent leurs cadets, une responsabilité difficile à assumer dans un contexte de déplacement. Rosalie Zawadi nous en parle dans ce reportage.
Je lave mes petits, je les habille et à la fin de la journée, je leur prépare à manger, explique Francine Gassoré. Âgée de 14 ans, elle est la responsable de ses trois cadets qui ont 10, 9 et 6 ans. Entre la douche les matins et le repas du soir, elle pense à tout ce qui manque à ses cadets et essaye d'y répondre.
Nous sortons du camp pour aller demander à manger. Lorsque les gens de bonne volonté nous donnent, nous venons préparer. Pas d'habits, nous n'avons pas de parents.
Selon les responsables de ces camps, ces ménages dirigés par les enfants mineurs sont une priorité lors des distributions de l'aide alimentaire. Malgré cette attention particulière, la situation des enfants déplacés chefs des ménages n'est pas facile. C'est pourquoi M. Kizito Magayane, vice-président de ces sites, pense qu'il faut que la paix revienne pour éviter aux enfants de supporter des responsabilités qui les dépassent.
Vous savez qu'à l'âge de 14 ans, de 16 ans, ou bien de 12 ans, être responsable aussi de ses petits frères, de ses petites sœurs, ce n'est pas une vie facile. Donc l'idéal, c'était de regagner nos villages, là où même ces enfants seront intégrés facilement dans le biais de leurs parents, que d'exposer les mineurs d'être responsables par force.
Goma, Rosalie Zawadi, Radio Kapi. Nord Kivu, toujours. Dans le territoire de Rutshuru, la société civile territoriale alerte sur l'interdiction aux populations par le M23 de récolter leurs produits champêtres. Selon elle, alors que l'heure est à la grande saison de récolte, les paysans se voient refuser l'accès à leurs champs par ces rebelles. C'est notamment dans les champs se trouvant dans la zone de Kaunga, environ 5 km au nord de la cité de Kiwanja. Cette population, qui fait déjà face à plusieurs défis, risque de mourir de faim, alerte la société civile de Rutshuru. Elle dit craindre des conséquences économiques et sanitaires pour ces populations qui vivent essentiellement de l'agriculture. Jean-Claude Mbabazé, président de la société civile de Rutshuru, ajoute qu'un véhicule transportant environ 10 tonnes de produits vivriers en direction de Goma aurait été détourné par les rebelles la semaine dernière. Dans le territoire de Beni, nous sommes toujours au Nord Kivu, plusieurs femmes, dont des déplacées, se sont constituées en petits groupes pour mettre en place des activités génératrices des recettes à Eringeti, localité située à plus ou moins 55 km de la ville de Beni. Objectif, renforcer leur résilience et ainsi subvenir à leurs besoins après avoir abandonné leur milieu suite à l'insécurité. Guylaine Kassassia revient d'Eringeti. Voici son reportage.
Ces femmes, constituées en petits groupes, ont mis en place un système de ristourne qui leur permet de se lancer dans des petites activités génératrices de recettes. Deborah Kaindo, l'une d'elles, explique.
Compte tenu de l'insécurité dans la zone, nous nous unissons en petits groupes pour faire des ristournes pour trouver les nécessaires. Si on atteint un nombre de 10 femmes, chacune contribue par exemple 500 ou 1000 francs. Une fois nous réalisons 20 ou 30 000 francs, on donne à une femme pour lui permettre déjà de commencer son commerce ici à Eringeti.
Au marché d'Eringeti, plusieurs femmes qui ont bénéficié de cette ristourne vendent des tomates, de l'huile de palme, du soja ou du charbon de bois, ce qui leur permet de subvenir aux besoins de leur famille. Toutefois, l'une d'elles, déplacée, plaide pour le retour de la paix dans la région.
Nous passons souvent des journées entières sans rien vendre. Ici, au marché, trouver 3000 francs par jour, c'est par la grâce juste pour la ration. Nous avons seulement besoin de la paix pour que nous retournions dans nos champs.
L'installation de l'éclairage public au marché d'Eringeti par la MONUSCO permet actuellement à ces femmes de vendre leurs articles jusqu'à tard dans la soirée, ce qui était impossible il y a quelques années dans une zone insécurisée. Beni, Gulen Kassassia, Radio Okapi.
Direction la province de Maïndombe. Plus de 100 maisons se sont déjà écroulées dans la cité de Kwamout à la suite de la montée des eaux du fleuve Congo qui constitue la frontière naturelle de ce territoire. La société civile locale qui alerte rapporte que plusieurs bureaux de l'État sont également touchés. D'après le président de cette structure citoyenne, plusieurs ménages sont aujourd'hui sans abri et vivent dans des conditions précaires dans des familles d'accueil. Pour Martin Souta, cette situation vient empirer la situation de la population locale déjà victime de l'insécurité causée par la milice Mobondo. Il lance un SOS au gouvernement et aux partenaires humanitaires. Le récit de Irène Boma.
En pleine cité de Kwamout dans la province du Maïndombe, le fleuve Congo a débordé et a occasionné plusieurs dégâts matériels depuis plus d'une semaine. Martin Souta, président de la société civile locale, fait savoir que ces eaux qui ont quitté leur lit naturel ont envahi plus de 100 maisons et une dizaine de bureaux de l'État.
Il y a déjà plus de 100 maisons écroulées. Les familles sont en débandade. La situation continue à persister parce que l'eau du fleuve continue à remonter. Captain Paul enregistre à lui seul déjà 54 maisons emportées par ce débordement. Le quartier Basoko est au-delà, plus qu'un pôle.
La même source indique que les ménages sinistrés vivent dans la promiscuité totale dans des familles d'accueil. Martin Souta lance NSOS en faveur de ces personnes en détresse.
Nous demandons au gouvernement central de pouvoir recourir rapidement à résoudre la situation de Kwamout. Parce que Kwamout maintenant est en train de subir double cas, les déplacés de guerre et aussi les déplacés provoqués par l'inondation. Parce que nous craignons les cas de maladies.
Finalement, que c'est la première inondation du fleuve Congo à la cité côtière de Kwamout depuis les années 60, a déclaré la société civile. Irène Boma, Bandundouville, Radio Okapi.
Province du Maniema, le chef des secteurs de Sakima, division Nord Maniema, alerte les autorités sur l'état de délabrement très avancé de la centrale hydroélectrique de Belia, selon Edgar Lunga. Cette centrale a deux turbines, mais l'une est en arrêt. On l'écoute au micro de Florence Kiza.
La centrale date de 1956. Avec son âge, je confirme que cette centrale est dans un état d'élabrement très avancé. Et il faut réhabiliter la centrale. Et la réhabilitation de la centrale coûte énormément cher. C'est pour cela que même le gouvernement doit intervenir pour sauver cette centrale. Avec les deux turbines qui sont en marche, je vous ai dit qu'une déjà est en arrêt, mais il faut remettre cette centrale rapidement de façon à ce que la deuxième production de cette centrale va aider, par exemple, à faire tourner les chantiers pour la production des minerais. Or, Punia, c'est le poumon du secteur minier du Maniema. Et pour cela, si on doit développer les mines, il faut nécessairement une centrale qui tient debout. Or, la nôtre, il faut des grands travaux de réhabilitation. Voilà pourquoi même le gouvernement doit intervenir de façon à sauver la centrale avant avant que le pire n'arrive.
Actualité internationale.
Dans son traditionnel discours annuel de vœux aux diplomates, le pape François a réclamé hier un cessez-le-feu en Terre Sainte et a déploré de nombreuses crises humanitaires à travers la planète, notamment sur le continent africain. Le pape a appelé les ambassadeurs à mener une politique de désarmement ainsi qu'à la création d'un fonds mondial pour éradiquer la faim dans le monde et permettre le développement durable de la planète. Et par ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.